convient d'évoquer le comportement de Donald Trump et justement l'élection de Donald Trump est reliée à la multiplication des fake news qui seraient d'ailleurs parfois lancé par des pays étrangers, en l'occurrence par la Russie, pour évoquer le poids véritable des fake news et la manière dont celles-ci peuvent influer sur la représentation que l'on se fait de la réalité et du coup sur la manière dont les individus votent, par exemple. Nous sommes en compagnie de Divina Fromex, vous êtes professeur des sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle et vous êtes membre du groupe d'experts sur les fake news créés par l'Union européenne. À côté de vous, nous accueillons Romain Badoire. Bonjour, vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise et vous avez notamment publié Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande. Justement, que sait-on aujourd'hui sur la manière dont Internet peut influer à l'aide de rumeurs, également de ce qu'on appelle des hoax, autrement dit des informations vérolées dont la personne qui les lance sait fort bien qu'elles sont vérolées. Comment cela agit-il sur, par exemple, nos votes, nos comportements, nos représentations de la réalité, Romain Badoire?
Alors ça, c'est le nœud du problème et c'est peut-être un des points sur lequel on exagère beaucoup ce phénomène des fake news. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de production massive d'informations qui sont falsifiées dans un objectif de propagande politique ou pour générer des revenus. Par contre, l'effet réel que ces fausses informations ont sur l'opinion, ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Dire qu'elles ont eu une influence déterminante sur l'élection américaine, c'est assez largement exagéré. On a des études qui datent de 2012, alors qui portaient pas sur les fausses informations, mais qui portaient sur l'information politique en période de campagne électorale sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, qui tendaient à montrer que les individus exposés à ces contenus électoraux ne s'en rappelaient même pas, ou en tout cas ça avait une influence très faible sur leur vote. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps dans le domaine des études des médias, qu'en fait la propagande électorale a un effet très limité sur les comportements de vote des électeurs.
Donnez-nous des exemples, malgré tout, de rumeurs, de fake news indubitables.
Alors, pendant la campagne française en 2017, par exemple, parmi les plus partagés sur Facebook, on avait une fausse information qui disait que les célibataires seraient obligés d'accueillir des migrants chez eux. Alors, il faut savoir que les réseaux d'information d'extrême droite ont un rôle déterminant dans la circulation de ces fausses informations, que Emmanuel Macron avait déclaré qu'il se lavait les mains lorsqu'il serrait la main des pauvres, qu'une nouvelle taxe allait être mise en place sur les potagers en France. Voilà, c'est ce genre de fausses informations qui, en période électorale, vont, en tout cas en 2017, parler principalement de la question de la dépense publique et des impôts.
Qui a formulé ces informations, je mets les guillemets nécessaires autour du mot information?
Qui les a produites?
Décidé de lancer cela sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, puisque j'imagine que ce sont les deux réseaux sociaux qui ont été privilégiés pour les lancer.
Tout à fait. Alors, il y a des réseaux qui se qualifient de réinformation, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, font de la désinformation, qui sont situés à l'extrême droite du spectre politique et qui vont avoir comme spécialité, justement, soit de prendre des informations parodiques, par exemple ce que peut faire le Logographie, mais en les blanchissant, c'est-à-dire en les vendant sous la forme d'une information véritable, alors que Logographie va chercher à faire rire uniquement avec ce type d'information.
Et alors, si on veut être précis, quand vous dites extrême droite, est-ce que ça veut dire que ce sont des associations qui sont complètement indépendantes du Front National? Est-ce qu'il y a une porosité? Comment situer ces associations?
Alors, il n'y a pas de lien formel avec le Front National. Par contre, on voit bien que ce que défendent ces médias, alors que ce soit uniquement des pages Facebook ou des sites d'information en ligne, ils vont être amenés à défendre Marine Le Pen et surtout à s'en prendre, lors de la campagne 2017, à son opposant principal qui était Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron était la cible vraiment de la plupart des fausses informations politiques qui ont circulé pendant la campagne.
Je vais vous poser une question d'une grande candeur Romain Badoire. Vous parlez donc d'informations qui semblent effectivement fantaisistes. Si on remonte un peu dans le temps, une époque préhistorique quand Internet n'existait pas, il y avait aussi des fausses informations qui étaient propagées et lancées par des gens qui probablement y croyaient. Si on prend par exemple la période des procès de Moscou, autrement dit des procès d'innocents, il y avait des personnes qui étaient suffisamment idéologisées pour croire que ces gens étaient effectivement coupables des crimes dont on les accusait et qui, en toute bonne foi, propageaient des contre-vérités, des mensonges. Est-ce que ces différents exemples que vous venez d'évoquer sont formulés par des gens qui y croient ou qui savent pertinemment que ces informations n'en sont pas ?
Alors effectivement, on disait tout à l'heure, est-ce que ces fausses informations ont une influence sur l'opinion ? Pas comme on pourrait le penser, c'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui sont convaincus, qui vont partager des fausses informations politiques pour exprimer un point de vue sur des sujets d'actualité. Donc ces fausses informations, elles sont plutôt révélatrices d'un phénomène de défiance assez répandu dans la population à l'égard des élites politiques, médiatiques et intellectuelles.
Mais lorsque, par exemple, on lance une information sur le thème « Tous les célibataires vont devoir accueillir des migrants », pourquoi seulement des célibataires d'ailleurs, est-ce que ces gens-là croient en cette information, est-ce que c'est une pure fabrication ?
Alors, a priori, ce que nous dit la sociologie des rumeurs, c'est que les gens n'y croient pas forcément dur comme fer. Mais c'est plutôt qu'ils vont adhérer à la vision du monde qui est derrière cette information, ou cette fausse information, qui va servir de véhicule à une forme d'indignation.
Divina Fromegs.
Oui, ben, je vais dans le sens de Romain. Il y a, dans toute fake news, il y a un noyau de vérité. Même s'il est décalé, même s'il est transformé.
Qu'est-ce que vous appelez noyau
donc,
de vérité ?
Eh bien, l'idée que ça pourrait être vrai, quoi. Que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. L'expression me manque.
Oui, pas de voilà. Fumée sans feu. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que vous nous définissiez dans ce cas-là où est la fumée et où est le feu. Parce que lorsqu'on dit tous les célibataires doivent accueillir des migrants, où est le noyau de vérité ?
Bien, dans le fait qu'à un moment donné, dans la population française, on s'est posé la question d'accueillir des migrants et de leur accueil dans des familles, etc. Hein. Donc, tout
coup d'un coup, on dit... sur la base du volontariat.
Voilà. Mais ça a circulé comme possibilité pour résoudre le problème, qu'au lieu de les laisser sous les ponts, il y aurait des familles d'accueil, etc. Donc, tout d'un coup, se dire, tiens, logiquement, parce qu'il y a une logique, hein, ceux qui sont seuls ont plus de place, donc pourraient. Donc, on voit très bien que c'est pas complètement idiot, hein, comme phénomène. Et donc, ça joue sur des biais cognitifs comme ça, de confirmation, hein, et là où des thématiques clivantes, hein, comme les migrants et leur accueil peuvent venir faire du mal, hein, c'est que justement, c'est utilisé par certains partis contre d'autres, hein, notamment les partis anti-européens et tous ceux qui prônent des retours aux frontières non poreuses.
Et vous avez employé un terme important, Romain Badoire, vous avez dit que cela pouvait également avoir un lien avec les informations parodiques, et on sait aujourd'hui que le rapport aux rumeurs, à des informations qui sont manifestement fausses, c'est un rapport qui n'est pas simple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une dimension ludique. On peut propager des informations en sachant qu'elles sont fausses, en y croyant à moitié. Bref, les choses ne sont pas blanches ou noires en matière de croyance en une information. Expliquez-nous.
C'est justement pour ça que la loi anti-fake news est assez délicate à ce niveau-là en termes d'application. Pour quelles raisons les internautes vont partager une information parodique ou une fausse information, on est face à des cas qui sont extrêmement variés. On peut les partager au premier degré pour informer son cercle de contact. On peut les partager justement pour exprimer une forme d'indignation. On peut les partager pour les dénoncer ou pour s'en moquer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on peut partager la déclaration d'une personnalité politique ou une information, qu'elle soit vraie ou fausse, n'importe quel type de contenu, pour aussi le dénoncer et le montrer du doigt en disant « regardez ce qui circule et faites attention ». Donc c'est vrai qu'on est face à une multitude de pratiques qui rend compliquée l'application d'une loi.
Mais enfin, par exemple, le Front National a été accusé d'avoir fait un montage. Alors ce montage, sans entrer dans les détails, consistait à montrer une collusion entre François Hollande, Emmanuel Macron et France Télévisions. Et pour se défendre, le Front National a dit qu'il s'agissait, bien entendu, d'un montage parodique.
Ah, effectivement, c'est... En fait, dans les réseaux qui propagent des fausses informations, le recours au blanchiment d'informations parodiques, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans de très nombreux cas. C'est-à-dire que on va regarder en France ou à l'étranger des informations parodiques qui fonctionnent bien, qui ont été beaucoup partagées, et puis on va produire un article où on va diffuser la même fausse information, mais sous un ton de premier degré, en espérant que on arrive à convaincre ou en tout cas à propager cette fausse information à travers d'autres réseaux, par des individus qui prendront cette fausse information au premier degré.
Mais alors dans ces conditions, comment se comporter Divina Fromex? Parce que on est vraiment là plutôt dans le contrôle de l'humour, je ne sais pas quel terme employer, si bien entendu ces associations ou ces partis politiques font de l'humour. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture dans une plaisanterie ou quelque chose qui est censé en être un. Comment faire ?
Discuter, converser et surtout ne pas cliquer tout de suite. Une des solutions que je trouve la plus amusante, c'est une solution canadienne où on demande de réfléchir 30 secondes avant de recliquer. Ce qui est déjà énorme, 30 secondes sur Internet. Mais ça permettrait déjà de moins viraliser l'information. Vous savez que la plus grosse partie de l'information est viralisée en moins de 4 minutes. Donc si on arrivait à faire que les gens se posent avant de retweeter, peut-être qu'on y arriverait. Voilà, donc c'est une solution toute simple, hein, mais qui peut avoir valoir son pesant d'or. Hein. Mais on a montré effectivement que les gens n'ont même pas tendance à lire les contenus des messages qu'ils reçoivent.
C'est-à-dire
ils se font prendre par la titraille. Et il retweete en fait des titres sans même essayer de voir la vérité du contenu, si c'est parodique, pas parodique, hein, mais pour être parmi les premiers. Ça joue sur la réputation, hein, sur l'influence que les gens espèrent avoir autour de leur propre sphère d'influence. Et donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, séparer ce qui se passe en période électorale où les gens ont beaucoup plus de vigilance. Là, je suis d'accord avec Romain et sur les recherches, hein, qui montrent qu'il y a un effet vraiment à la marge, hein, que parmi les convaincus vraiment plutôt de l'extrême droite, hein, des fake news. Mais il y a un effet plus diffus à prendre sur des années entières, hein, de ce genre de pratique, qui est pour moi ce qui est le plus menaçant au quotidien, hein, qui fait qu'on est effectivement dans une ère du soupçon, hein, parce qu'on finit par se dire, tout ce qui m'est arrivé depuis 2 ou 3 ans a pu influencer mon mode de réflexion.
J'ai dit tout à l'heure, Romain Badoir, qu'il y avait un certain nombre de fausses nouvelles qui avaient été propagées bien avant l'invention d'Internet. Néanmoins, Internet a modifié les choses, et notamment, lorsqu'on se penche sur la question, il y a un type, une catégorie de personnes qui ont disparu avec Internet. On les appelait des gatekeepers, des gardiens de la porte. Sont eux qui distinguaient les informations censées être sérieuses des autres. Parfois, ils se trompaient, évidemment, et ils laissaient passer des informations qui n'étaient pas sérieuses. On se souvient, par exemple, qu'un journal comme Le Monde, lors du génocide cambodgien, avait publié des informations qui étaient manifestement erronées sur la politique de Pol Pot. Mais aujourd'hui, la disparition de ces gatekeepers, de ces gardiens de la porte, qu'est-ce qu'elle entraîne sur notre manière de nous représenter la réalité ?
Ça, c'est un enjeu qui est effectivement très important. Les gatekeepers, alors c'est principalement les journalistes, hein, qui filtraient l'information avant qu'elle soit publiée, ne disposent plus de ce pouvoir sur Internet. C'est-à-dire que les informations sont d'abord publiées et ensuite elles sont triées. Mais qui effectue ce tri ? Ce sont les algorithmes, soit des moteurs de recherche comme Google, qui vont décider de quel type d'information doit être rendue visible, ou les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux comme sur Facebook, qui vont nous recommander des contenus en fonction de notre proximité avec les gens qui nous entourent.
Sans discrimination.
En fait, dans le cadre de Facebook, Facebook va nous proposer les informations qui sont publiées par les gens dont nous sommes le plus proches. Et comment Facebook évalue cette proximité ? En fonction de l'intensité des interactions que nous avons avec eux. Donc plus nous allons commenter ou partager les contenus d'un contact en particulier, et plus les contenus de cette personne vont être visibles sur notre fil d'actualité. Le problème étant qu'on sait que sociologiquement parlant, les gens dont nous sommes le plus proches sont ceux qui pensent le plus comme nous, et donc qui vont avoir tendance à partager des informations qui vont nous conforter dans nos opinions. Donc c'est ça aussi qui joue dans notre représentation de la réalité, puisque cette controverse sur les fausses informations, elle s'articule à une autre controverse qui est celle des bulles de filtrage, de l'enfermement idéologique, où effectivement, on va avoir tendance à être conforté dans nos recherches passées d'informations, dans notre vision du monde.
Est-ce que c'était différent avant? Parce que lorsqu'il y avait, donc pour les uns, la volonté de lire des choses qui étaient idéologiques, pour les autres, tout simplement une logique partisane, est-ce qu'on n'était pas là aussi dans des bulles?
Si, complètement. Internet n'a rien inventé à ce niveau-là. Hein. Le journal que vous lisez en dit long sur vos votes, votre orientation politique. Seulement, là, ce qui se passe, c'est une forme d'automatisation de cet enfermement idéologique par le biais des algorithmes. Et la question, c'est à partir du moment où on ne s'informe que sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas pour une part de plus en plus importante de la population, ce phénomène d'enfermement idéologique va être accentué. Mais Internet ne l'a pas inventé et on a tous l'occasion dans notre quotidien de percer ces bulles de filtrage.
Oui, et la recherche montre qu'en fait, les gens sont plus exposés à des informations divergentes sur Internet qu'ailleurs. Donc, il faut là aussi relativiser.
Et relativiser donc, il faut aussi le relativiser de
l'influence
de manière singulière.
Des influenceurs. Parce que parmi les plus gros influenceurs, il y a vous. Les médias de masse. Vous êtes parmi les plus retweetés et parmi ceux qui êtes les plus suivis. Et malheureusement, un certain nombre de journalistes doivent revoir leur éthique, me semble-t-il, parce que ils ont la tendance à se comporter comme dans la profession, comme dans la vie privée, c'est-à-dire qu'ils tweetent où ils republient l'information en disant que de toute façon, ils auront l'opportunité de la modifier dans un deuxième temps, comme on le fait souvent sur Internet. Hein. Et là, il y a vraiment une alerte au niveau de la profession même du journalisme. Et je pense que la bonne nouvelle des fake news, c'est qu'elle a alerté les journalistes au besoin de réaffirmer leur légitimité et leur utilité sociale, mais aussi de revoir leur éthique et leur déontologie.
Mais dans le même temps, les journalistes sont très largement critiqués, leur travail est jugé peu fiable.
Je pense qu'il y a une révision de ça, hein, et on voit depuis l'arrivée de la fake news qu'il y a un regain de confiance qui s'est manifesté au niveau du journalisme. Devinez lequel, hein, quel média en profite le plus ?
Je crois que c'est la radio.
Mais oui, Guillaume, bravo, vous avez gagné, et c'est une vraie news. La radio, c'est-à-dire l'oreille plus que la vue, hein, puisqu'on sait que beaucoup de fake news passent par l'image. Et donc, pour moi, c'est un très bon signe que la radio inspire plus de confiance.
Pourquoi pas la presse écrite ? Parce que la presse écrite comporte peu d'images. Elle est généralement à la fois vénérable et plutôt sérieuse.
Parce qu'elle est aussi le plus perçue comme inféodée au pouvoir, comme le moins indépendante financièrement. Hein. Comme vous le savez, il y a une très très grosse capitalisation en ce moment. Il y a quelques milliardaires français qui possèdent la plupart de nos journaux. Et donc là, je pense que c'est très sain de la part des gens de se méfier de ce que cela peut avoir comme influence, cette culture de contrôle de l'élite, qui est quand même ce que manifeste aussi la fake news. Hein. C'est un phénomène social qui, pour moi, est une alerte. Indépendamment à ce que ça fait à l'information, une alerte de la population disant « redonnez-nous hein, confiance ». Après tout, on vous renvoie la balle dans votre camp, faites-nous la preuve.
Romain Badoir.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que ce phénomène des fake news, il prospère sur un mouvement de défiance de la population à l'égard des élites médiatiques, intellectuelles, politiques, et que quelque part, au-delà des fake news, tout ce qui touche à la théorie du complot, c'est une forme d'extension de l'esprit critique qui s'est aussi propagée dans la société. L'idée de ne pas croire tout ce qu'on nous dit et de remettre en question justement les informations qui nous parviennent, ce qui est plutôt une chose positive, mais qui, dans le cadre des fake news ou des théories du complot, peut être poussé à l'extrême. Et je suis tout à fait d'accord avec Divina lorsqu'elle dit que, au final, ça peut-être relégitimer les journalistes traditionnels et les médias traditionnels, cette controverse.
Oui, mais dans le même temps, ce sont eux aussi qui peuvent formuler des fake news. Après tout, il n'y a absolument aucune raison pour que un journal aussi vénérable, aussi sérieux soit-il, ne diffuse pas une fausse information. L'exemple le plus classique, c'est évidemment, à la suite du 11 septembre, la manière dont les menaces posées par les armes de destruction massive irakiennes ont été diffusées et colportées, y compris par le New York Times, qui est un modèle généralement d'objectivité journalistique, ou en tout cas qui est censé l'être. Votre point de vue à ce sujet, Romain Badoir?
Alors, moi, je pense que si les théories du complot ont tant de succès aujourd'hui, c'est aussi parce que des vrais complots, il y en a, et de la désinformation des médias traditionnels, il y en a aussi également. Donc, c'est effectivement le voilà. C'est pour moi les fake news, c'est un nouvel indicateur d'un mouvement de défiance qui s'accroît, qui s'approfondit. Et c'est pour ça que ce n'est pas uniquement une loi qui permettra de lutter contre. Il y a vraiment un travail de fond à faire à ce niveau-là.
Divine Afroy.
Et puis c'est vrai que le New York Times, par exemple, il va reconnaître ses erreurs. Ça, c'est très important pour recréer la confiance. Les journaux américains de référence, et les autres d'ailleurs aussi le font, ce qui ne se passe jamais avec la fake news. Personne ne s'excuse d'avoir créé une fake news, c'est même plutôt le contraire. Hein. Ça se perd, le démenti n'est pas reçu par les gens qui l'ont reçu elles-mêmes. Donc il y a vraiment toute une fuite là de la confiance, hein. Alors que la presse traditionnelle de masse, normalement, fait son démenti, bat sa coulpe et repart sur des bonnes bases une fois l'alerte passée. Simplement, voilà, ce genre d'information se perd en ligne, hein, et c'est ça qui est problématique.
Il y a une question qui est très importante, qui est la question de l'intention. Effectivement, on peut avoir des fausses informations qui vont circuler par les médias traditionnels parce que les journalistes se sont trompés, ont fait une erreur, ont manqué d'esprit critique. Alors, à la fois, eux vont faire preuve d'un retour critique sur leur pratique. Ça, c'est très important. Mais dans le cadre des fausses informations, on voit qu'on a des intentions qui sont très différentes. Entre l'idée de propager une fausse information parce qu'on a fait une erreur, on s'est trompé, entre l'idée de chercher à influencer le comportement politique des autres internautes, ou avec l'idée tout simplement de générer des revenus publicitaires par le biais de ces fausses informations. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on est face à des cas de figure qui sont très différents et qu'on ne peut pas mettre au même niveau.
Bien sûr, mais alors si on met de côté la cupidité, Romain Badoire, et il y a aussi des informations parfaitement fausses qui sont véhiculées tout simplement par des gens qui sont très idéologisés, très fanatisés. On a beaucoup d'exemples d'idéologies mortifères à cet égard. Et ces gens-là sont absolument dupes des informations qu'ils colportent, ce qui est un vrai problème, puisque dans ce cas-là, vous devez lutter contre des individus de bonne foi, qui sont des individus qui peuvent être parfaitement dangereux pour la démocratie, mais qui en tout cas ne se considèrent pas comme étant des menteurs ou des manipulateurs.
Tout à fait, et la question c'est de savoir comment on arrive à les toucher, à les convaincre ces individus-là qui vont les partager en les croyant au premier degré, ces fausses informations. Et là, du coup, c'est plutôt aux journalistes d'intervenir sur le terrain avec ce qu'on appelle la pratique du fact-checking qui vise à vérifier les faits en circulation, à leur porter un démenti. Le problème du fact-checking, c'est que évidemment, il va avoir du mal à convaincre des individus idéologisés qui sont dans un mouvement de défiance par rapport aux médias traditionnels.
Divina Fromegs.
Oui, ben je suis d'accord. Hein. Malheureusement, les résultats de la recherche sur le fact-checking montrent qu'il est très limité dans son impact, lui aussi. Hein. Et bon, il n'en est qu'à ses débuts, donc je pense qu'on va trouver des solutions pour le rendre de plus en plus efficace. Mais l'enjeu est d'aller chercher les crédules, hein, de ce type-là, sans les traiter de manière arrogante. Hein. Il faut les ramener dans un débat. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de les marginaliser et de les traiter comme des idiots ou autres. Il faut vraiment aller sur leur propre terrain et petit à petit leur montrer des contradictions en espérant, voilà, petit à petit, arriver à les convaincre qu'il faut entrer dans un débat contradictoire avec d'autres plutôt que de s'enfermer dans sa bulle.
Romain Badoire, vous qui avez publié un livre consacré au désenchantement de l'Internet, est-ce que l'on voit aujourd'hui une attitude de plus grande vigilance vis-à-vis de l'Internet, puisque au début les choses étaient nouvelles, aujourd'hui elles sont quand même mieux installées, est-ce que l'on voit aujourd'hui plus de précautions prises ou est-ce que la crédulité demeure à un niveau assez élevé ?
En tout cas, on voit que c'est un sujet qui est pris au sérieux. On voit que le niveau de confiance dans Internet en général, chez les sondés dans différentes enquêtes d'opinion, a plutôt tendance à baisser. Et on voit aussi que on accorde de plus en plus d'importance à la question de l'éducation aux médias et au numérique. Et ça, Divina en parlerait mieux que moi, mais c'est effectivement un enjeu très important, cette question de l'éducation aux médias et à l'information, notamment sur Internet et les réseaux sociaux.
Divina Fromegs.
Et oui, et c'est pour ça que j'ai créé une association, moi, qui a pour motto chanter l'Internet ensemble. Parce que c'est bien cette idée qu'il faut se l'approprier. L'Internet est arrivé comme une espèce de paquet cadeau qu'on a utilisé de manière un peu sauvage. Et là, maintenant, on est dans une phase de maturation de l'Internet. Ce qui veut dire qu'il faut le civiliser. Il faut le dompter et pas nécessairement aller contre hein, certains phénomènes de désordre, hein, parce qu'ils sont sains, ils permettent de voir un certain nombre de choses. Hein, donc, ça fait partie de toute l'éducation. On voit aussi les opportunités comme les risques. Et donc, si on devait aller plus loin, il faudrait arriver à constituer cette idée d'un risque de l'information, hein, pour parler des fake news et autres désordres de l'information. Mais le risque, ça n'est pas le danger. Le risque, c'est quelque chose que l'on prend en toute connaissance de cause et avec discernement. Donc, ce qu'il faut pousser, effectivement, c'est l'éducation au discernement.
Le discernement, justement, il y a eu plusieurs tentatives de faire des Nutri-Score. Vous savez, ces petites pastilles de couleur qui sont destinées à l'alimentation. On a tenté de les transposer dans le domaine des médias en faisant des sites fiables, des sites non fiables. Quel bilan de ce type de démarche ?
Alors là, c'est compliqué. Je pense que vous faites référence au décodex des journalistes du Monde lorsque vous dites ça. Il y a eu une polémique autour de cet outil, évidemment.
Je crois qu'il y en a eu.
Oui, il y en a eu une grande même, parce qu'effectivement, la question, c'est une question de légitimité. C'est-à-dire, est-ce que c'est aux journalistes de décider ou d'évaluer la fiabilité des sources d'information qui sont des concurrents directs pour eux sur le marché de l'information que sont devenus les réseaux sociaux. Et c'était vraiment ça qui était au cœur de la controverse. Il y a des associations qui plaident pour faire une forme d'évaluation collective des sources d'information en ligne à la manière d'un Wikipédia collaboratif, et c'est peut-être une piste intéressante à suivre.
Et oui, un mot de conclusion, Divina Fromet.
Eh bien, il faut exactement aller vers cette forme de fact-checking que j'appelle créer l'armée des elfes pour avoir des gens qui vérifient les informations et les partagent avec tout le monde. Puisqu'on a une armée des trolls en face de nous qui désinforment, on peut avoir une armée des elfes qui informent et qui vérifient et qui le fait de manière collaborative et contributive. C'est ça l'esprit d'Internet. À réenchanter.
Merci Divina Fromex, merci Romain Badoir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande chez FYP Édition.